Je connais les projets formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu s'adresse à un peuple captif à Babylone et il a tenu sa promesse, il s'est laissé trouver. Nous pouvons relire aujourd'hui ces versets, car cette promesse est aussi pour nous, pour chacun, chacune de nous. Pour que nous puissions le trouver, Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Il est né parmi nous, il a vécu comme nous, il est mort. Dans son amour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que nous croyions et que nous ayons la vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu es présent parmi nous. C'est toi qui nous rassembles, c'est toi qui nous unis. Que ton amour nous habite, que ta présence nous éclaire, que ta parole nous fortifie. Amen. Venez le célébrer. Cantique 21:15. Et nous louons Dieu avec le psaume 78. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient, se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et que le Dieu très haut leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Mais lui, miséricordieux, au lieu de les détruire, il pardonnait. Et il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle, qui s'en va à son retour. Prenez place. Bienvenue pour ce culte de rentrée. Le premier culte de famille de cette année scolaire. Alors, il y a quelques responsables jeunesse, on va les appeler, je les invite à s'approcher. Alors, d'abord, les jardins bibliques, nous avons Ashley et Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont présents ? Voilà, qui s'occuperont donc du jardin biblique, de l'éveil biblique, pardon. Il y aura le jardin biblique. Alors, il y a le jardin biblique. Alors, ceux qui étaient l'année passée, ils le reconnaîtront parce que c'est ceux qui s'occupaient, ils ont eu une promotion. Elles ont eu une promotion, elles s'occupent des plus grands. Alors, je vous invite à vous approcher. Et enfin, il y a le caté, et ce sont les deux mêmes. Donc, il y en a un ici, et l'autre, Pierre, il est là. Ah ben, alors, moi, j'aimerais aussi, que sont des moniteurs, des monitrices sans les enfants? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a les enfants de l'école biblique, du jardin biblique, excusez-moi, c'est moi qui... Du jardin biblique, ceux qui peuvent quitter les... Voilà. Alors, on a Emeline au fond qui s'occupe des plus grands encore, mais c'est le samedi, elle. Voilà.
Le groupe de jeunes.
Le groupe de jeunes.
Ils sont nombreux et ils sont chouettes, ils sont
vivants. Donc, il y a les enfants de l'école biblique. Allez. Ah, bah oui. Et est-ce que. Alors, venez dire vos noms. Allez, venez dans le micro. Comme moi, je le fais, Vincent. Et vous me dites si c'est la première année que vous êtes à l'école publique. Vas-y, prends le micro.
Je m'appelle Ivan, je suis là depuis le jardin biblique. Et, Je m'appelle Laura et c'est ma deuxième année. Je m'appelle Anaël et c'est la deuxième année.
Deuxième année.
Je m'appelle Lison et c'est ma deuxième année à l'école biblique.
Je m'appelle Zan et c'est ma dernière année à l'école biblique.
Je m'appelle Amélie et c'est ma dernière année à l'école.
On doutait que c'était pas la première.
Ah, on s'est dit que c'est pas la première année.
Et c'est pas encore.
Je m'appelle Maëlia et c'est ma deuxième année aussi.
Deuxième année?
Oui.
Pas de première année.
Il y a des
garçons. Les garçons? Ah, les garçons. Juste son prénom.
Je m'appelle Lydia et c'est ma dernière année.
Et je m'appelle Paul et c'est ma troisième année.
Ah, enfin.
Voilà. Cette année, aujourd'hui, on va parler de projets que Dieu a pour nous. Alors, vous allez parler de différentes choses. Je crois qu'il y a l'Arche de Noé pour les plus petits, c'est ça? Je ne sais pas. Hop. Je pourrais le passer. Hop. Enfin, voilà. Vous allez un peu parler de textes de la Bible. Et avec les plus grands, on va poursuivre. Après le culte, on poursuivra cette réflexion sur les projets de Dieu. Alors, je vous propose maintenant de chanter « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Alors, c'est un chant pour lequel on se met debout, on a le droit de bouger un peu, sinon c'est un peu tristounet.
Je chante de la belle vie, je l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David.
Bougez un peu.
Je danse comme David. Je danse comme David.
Il dansait mou, David, hein. Ben c'est mieux que la dernière fois, d'ailleurs. Je vous félicite. Non, sérieusement, voilà, les plus jeunes vont maintenant rejoindre leur groupe. Et vous pouvez prendre place, bien sûr. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons ceci. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dans l'Évangile, Jésus parle à la foule. Moi, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il n'avance pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous invite à rester assis pour chanter le 4304, les strophes 1 et 3. Donc 4304, strophes 1 et 3, page 638 pour ceux qui veulent suivre. Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tout ce qui n'est pas vécu dans ta clarté, ces points sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière, ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux de notre foi, peureux dans nos décisions. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce soit nos craintes, qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de te faire pleinement confiance. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Levons-nous pour recevoir la parole du pardon. Voici la parole qui libère. À ceux qui se repentent et se tournent vers Jésus-Christ, nous proclamons le pardon de leurs péchés pour qu'ils vivent maintenant et toujours. Amen. Chante Alléluia au Seigneur.
Thank you.
Prenez place. Une lecture pour aujourd'hui, une lecture en deux temps. Alors, pour être honnête, j'ai supprimé un verset. Alors, ce n'est pas parce que le verset était dérangeant, c'est parce que c'était une liste de noms. Bon, qui sont très intéressants dans le contexte, mais hors contexte. Excusez-moi. Alourdissait plutôt la lecture. Donc ce sera dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, d'abord les versets 1 à 9 et ensuite les versets 10 à 15. Avant nous prions. Merci Seigneur pour la Bible. C'est le livre où tu nous apprends la vie. C'est la parole qui crée la liberté et la dignité. C'est l'histoire qui nous apprend ta fidélité. Amen.
Je vais parler lentement pour que Vincent puisse reprendre son souffle. Et donc nous lisons Jérémie 29, les versets 1 à 9. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur.
Jérémie chapitre 29, versets 10 à 15. Mais voici ce que dit le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit le Seigneur, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone.
Nous chantons « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute » Cantique 53, 0, 4, les deux premières strophes, page 865. Pardon. Prenez place. Avoir des projets, c'est généralement le signe que l'on ne va pas trop mal, qu'on arrive à se projeter dans l'avenir. Va-t-on réaliser ses projets? Pas sûr. Est-ce grave? Pas forcément. J'ai encore et je l'espère, j'aurai des tas de projets que je n'ai pas tous réalisés, et en regardant en arrière, pour certains nombre d'entre eux, c'est tant mieux que je ne les ai pas réalisés. C'est bien d'avoir des projets. Mais ici, il n'est pas question d'avoir des projets pour soi, pour sa vie, pour son avenir. Non, ce dont il est question ici, c'est l'affirmation que Dieu ait des projets pour moi, pour chacun, chacune de nous. Et là, tout de suite, je me méfie, pas de Dieu, hein, mais je n'aime pas que d'autres aient des projets pour moi. Ah, ça me va parfaitement quand ma femme a des projets pour les vacances. Ça va, enfin généralement. Ça m'irait très bien que mes enfants aient des projets pour mon anniversaire. Je ne sais pas si le message passe. Bon, mais je n'aime pas que des gens et des projets pour ma vie. Malheureusement, il y a un peu trop de gens qui ont un peu trop de projets pour la vie des autres. Surtout que ce sont des projets qui ne vont pas dans la même direction que celle que j'aimerais qu'on emprunte. Ils affirmeront que c'est pour mon bien, le bien de tous, le fameux bien collectif, et qu'ils savent mieux que moi où se trouve mon bonheur. L'histoire nous renseigne ce que cachent ces projets-là. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens sincères dans les projets qu'ils avaient pour moi. Par exemple, mes parents. Suis-je rentré dans ces projets? Certes non. Avait-il envisagé que je devienne pasteur? Que nenni. Ma mère espérait plus haut socialement et financièrement. Mon père, je ne sais pas, mais pas pasteur. Ce n'est pas qu'il était foncièrement contre, mais il n'avait pas envisagé l'hypothèse. Est-ce qu'ils ont été ravis quand je leur ai annoncé mon choix? Non. Est-ce qu'ils m'ont découragé? Non plus. Est-ce qu'ils m'ont encouragé? Pas vraiment. M'ont-ils soutenu? Oui. Assurément. Ont-ils été fiers de moi? J'aime croire que oui. Sont-ils contents pour moi? Oui. Ma mère est heureuse, mon père a été content que j'ai trouvé ma voie, un métier que j'aime, dans lequel je trouve du bonheur et qui m'a permis de trouver du sens à mon activité, qui m'a permis aussi de réussir ma vie personnelle. Mes parents avaient des projets pour moi, comme j'ai des projets pour mes enfants. Mais ces projets ne sont pas des plans bien établis, fixes et déterminés. Ce ne sont pas des projections de nos propres ambitions pour les autres. Cela relève d'une espérance que les petits réussissent leur vie. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Il y a une évidente analogie possible à établir, mais toutefois à relativiser. Mes parents n'étaient pas Dieu, ils n'étaient pas non plus des parents parfaits, ce dont je les remercie d'ailleurs. Ils ont fait ce qu'on demande à des parents, leur possible, malgré leurs défauts. Pour reprendre une phrase de l'Évangile, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et finalement, que demande-t-on à Dieu pour nos vies? Cela peut prendre plusieurs expressions, mais globalement, on pourrait condenser ça en une formule toute faite comme « être heureux, réussir sa vie ». Ce qui d'une part manque de précision, et d'autre part est une évidence. Qui souhaiterait être malheureux ou rater sa vie? Dieu, dans le passage que nous venons d'entendre, nous promet-il le bonheur? Sans relire le texte, j'aurais répondu « oui ». Projet de bonheur et non de malheur. Fichue mémoire. Ce n'est pas ce qu'affirme le verset. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Certes, en hébreu, le mot « shalom » est plus qu'une absence de conflit. Ce n'est pas le bonheur, mais un espace ou un temps dans lequel le bonheur est possible. D'ailleurs, ce mot de « shalom » se trouve dans un autre verset où il est traduit, selon les bonnes versions, tantôt par bonheur, tantôt par prospérité. C'est le verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de son bonheur. Votre shalom dépendra de son shalom. » Donc, Dieu nous promet non le bonheur, mais la possibilité de celui-ci. Un peu comme la déclaration d'indépendance américaine qui cite parmi les droits inaliénables la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Pas le bonheur, ce n'est pas un droit, mais sa quête, oui, un droit fondamental. C'est trop gentil de leur part de nous permettre d'avoir le droit d'espérer être heureux. Et pourquoi pas le bonheur, tant qu'à faire, je pourrais aller jusqu'au bout. Parce que le bonheur, il est propre à chacun. Si vous me disiez quelle était votre vision du bonheur, il y a des possibilités non nulles que pour moi, ça leur ressemble à un cauchemar. Raison pour laquelle les États, les sociétés, les institutions, religieuses ou non, n'ont pas à s'occuper de votre bonheur. Seulement de créer un cadre de liberté où ce bonheur pourra, peut-être, éclore. Comment trouver mon bonheur ? Je suis sûr qu'il existe plein de livres en développement personnel qui vous donneront des tas de conseils, en échange d'un peu d'argent, ou de coachs de vie qui vous le promettront contre rémunération. J'imagine que vous avez perçu mon scepticisme. D'abord, et c'est une conviction personnelle, donc hautement contestable, que chercher le bonheur est non seulement vain, mais contre-productif. C'est comme s'acharner à oublier quelque chose. Il faut que j'oublie ce truc-là, ce n'est pas le meilleur moyen d'y arriver. Chercher le bonheur, ce n'est pas vraiment la meilleure voie. Le bonheur n'a pas de recette, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait aucune grande ligne, aucune bonne idée. Et ce que nous dit notre passage biblique, et il est temps d'y revenir, c'est que toute cette histoire s'applique à un temps de déportation, où il n'y a plus à vue humaine d'avenir pour le peuple, plus d'espoir ni d'espérance. Le prophète Jérémie leur écrit alors une lettre dans laquelle il les invite d'abord à ne pas écouter les prophètes de malheur, ceux qui proclament qu'ils n'ont plus qu'à se fondre dans la masse, à disparaître en tant que peuple, en tant qu'identité. Mais il leur enjoint également de ne pas écouter non plus ceux qui affirment que ce n'est pas grave, que tout va s'arranger. Nous avons aujourd'hui, nous aussi, ces deux catégories de prophètes, ceux de la catastrophe et ceux du déni, ceux du « tout est fichu » et ceux de « tout va très bien, Madame la Marquise ». Jérémie, quant à lui, promet une solution de la part de Dieu, mais dans 70 ans. Pourquoi 70 ans? Cette durée est historiquement bricolée. Il faut soigneusement choisir le début et la fin de l'exil pour que ça arrive à 70 ans. C'est donc plutôt un chiffre symbolique. Alors j'ai regardé. On me dit 70, c'est 10 fois 7, ou 7 fois 10. Bon, soit. Mais pour signifier quoi? Alors j'ai lu ça. C'est les jours de la semaine multipliés par les doigts de la main. Sérieux? C'est quoi cette multiplication? Ça amène à quoi? Des jours de la semaine multipliés par les doigts de la main, ça n'a absolument aucun sens. Le professeur de mathématiques me confirmera. Ça ne veut rien dire. Bon, donc, pas ça. Alors il y a une autre possibilité, c'est 7. C'est la plénitude, bon, soit. Et 10, c'est la quantité. Alors, c'est pas très encourageant, ça veut dire qu'il faut une grande quantité de plénitude, ça va être long. Alors peut-être qu'il faut partir sur un autre type de symbolique. Et c'est peut-être le psaume 90 qui va nous donner une idée. Le psaume 90 dit ceci, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. » Car il passe vite et nous nous envolons. 70 ans, c'est la durée d'une vie humaine, en moyenne. Alors aujourd'hui, c'est 79, paraît-il, et 85 pour les dames. Bon. Mais disons que 70, c'est une bonne approximation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Alors, est-ce que ça veut dire, du coup, que pendant 70 ans, nous sommes en exil, et que toute notre vie, le bonheur n'est pas possible, qu'il faut attendre d'être mort pour être heureux? Bien sûr que non. C'est pas ça que ça veut dire. Non. Ce que Jérémie nous indique, c'est que les conditions idéales de bonheur n'existent pas sur cette terre. Une invitation nous est lancée. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Alors on pourrait dire que c'est très basique, presque animal, comme vision des choses, comme objectif. À la limite, on pourrait dire c'est métro, boulot, dodo, quoi. Une vie de petit être grisâtre, à la vie morne. De ceux chantés par Brel quand il évoque ces métros remplis de noyés. Mais là encore, les termes sont à prendre dans leur sens symbolique. Il s'agit de bâtir pas tant sa maison que sa vie, sa famille, sa communauté, de transmettre la vie non seulement biologiquement, mais aussi spirituellement. Et tout cela dans un monde imparfait. D'être vivant dans une société tournée vers la mort. Pour être heureux, il faut d'abord être vivant. Et être vivant, bibliquement parlant, ça ne se limite pas aux fonctions organiques. Mais la parole du prophète va plus loin. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ne vous contentez pas que de vous-même et de vos semblables. Restez fidèles à vous-même et à Dieu, certes, mais au milieu des autres. Pas de fuite sectaire. Vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Vous connaissez, il y a une blague, une citation un peu cynique que j'aime bien, qui dit « C'est pas tout d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. » Alors j'aime bien parce que c'est rigolo, mais c'est atrocement faux. Personne d'équilibré, personne de saint d'esprit, en tout cas, ne peut être heureux au milieu du malheur. On n'est pas heureux contre les autres, on est heureux avec Bien sûr, je ne peux pas, sans renier tout ce que j'ai dit avant, vous demander de vous occuper du bonheur de vos voisins. Mais vous devez leur laisser l'espace de liberté nécessaire à sa poursuite, comme vous devez veiller à la conservation de votre espace. Dieu nous invite à habiter ce monde, à le cultiver, à y transmettre notre foi et notre espérance. N'oublions pas toutefois, bien qu'un certain nombre de nos contemporains semblent penser le contraire, allant jusqu'au meurtre, que celui qui ne partage pas nos opinions religieuses ou politiques, notre vision de l'avenir ou du bonheur, n'est pas notre ennemi. Il est notre prochain. Et du shalom de notre prochain dépendra le nôtre. Amen. Je remets tout entre tes mains, cantique 47-22, page 753, c'est la variante, donc je remets tout entre tes mains. Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout de Jésus-Christ est notre Père. De lui, je reçois mon nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, fils de Marie et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils, de lui je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, unie dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle je reçois, avec mes sœurs et frères de baptême, l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen. Et nous chantons les deux premières strophes du psaume 8, page 40. Psaume 8, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. » Prenez place. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous voulons te dire notre reconnaissance par notre participation à la vie de ton Église. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux et celles que tu nous as confiés. Toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Monsieur le Président.
Bonjour à tous, merci de votre présence, merci d'habiter cette maison. Merci à Vincent pour le culte de ce jour. Merci à Guillaume pour le rétroprojecteur.
Vidéoprojecteur.
Vidéoprojecteur. Merci à l'orchestre pour la musique. Et merci à Yvon, Serge, Pierre, Pierrick pour l'accueil, Frédéric. Voilà, quelques annonces. Je vais dérouler la semaine et puis je donnerai la parole à Norbert après. Juste après le culte, il y a le groupe Pain, Parole, Partage qui se retrouve. Donc, si vous êtes jeunes parents, en attendant vos enfants, c'est très bien de participer à ce groupe, par exemple. Vous pouvez voir avec Andrea qui vous donnera tous les éléments à ce sujet. Mardi matin, exceptionnellement, il n'y a pas de prière matinale à 7h. Par contre, il y a la chorale à 19h15. Mercredi, à 14h, il y a l'association Arocha. C'est une association partenaire des églises vertes qui fonctionne au sein des églises protestantes. Et il y a un groupe Annecy. Donc ce groupe vous propose l'opération nettoyage de nos quartiers et vous propose de se retrouver à 14h devant l'église Abba.
Et le verset qu'ils ont choisi, c'est celui d'aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai faits pour vous. Voilà.
Donc mercredi à 18h, il y a la prière ici, de 18 à 19h. Et le soir, il y a les amitiés judéo-chrétiennes à 20h à la Puya. Donc Norbert en parlera plus. Et puis, à 18h30, il y a le groupe interreligieux. Donc, Anoa, elle n'est pas là? Non. Donc, si vous êtes intéressé par ce groupe, il faut contacter Anoa. Vendredi, il y a le groupe œcuménique Bible en partage qui se retrouve à 18h30 ici. Donc, voilà, c'est une occasion de partager avec d'autres chrétiens, d'autres confessions, un texte biblique. Généralement, c'est le texte du dimanche d'après. Voilà. À ce propos, il y a le vendredi d'après, il y aura aussi l'étude biblique au sein de notre église.
Ce sera jeudi. Mais c'est jeudi.
Oui, le jeudi, voilà. Avec Vincent. Voilà, il y a différentes propositions, de même que jeudi dernier, il y avait le catéchisme pour adultes. Donc, si vous souhaitez rejoindre certains de ces groupes, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir nous rejoindre. Une petite annonce, il y a le goûter du Serra le 7 octobre. À 15h chez Christine. Donc l'inscription est nécessaire.
Je vais préciser quelle Christine, parce qu'il y en a quelques-unes. Athée.
Chez Christine Athée. Voilà, donc l'inscription possible et transport possible. Vous pouvez vous inscrire auprès de Monique, par exemple, qui est là ce matin.
Je peux annoncer le truc de la CAT.
Voilà, j'ai oublié sur le Mont Blanc le message du mois de la CAT, donc la petite carte à envoyer. Donc ce mois-ci, il s'agit d'un appel concernant le Mexique. Voilà, donc Je vous laisserai regarder. Vous pouvez joindre Thierry et à propos de la 4, on vous signale dès aujourd'hui qu'il y a le rassemblement régional de la 4 qui
la 4, donc l'action des chrétiens contre, pour l'abolition de la torture.
Et ce rassemblement aura lieu le 5 octobre.
Donc il y aura un culte spécial suivi d'un après-midi avec une conférence. Vous aurez les informations.
Et puis sinon, nous vous signalez qu'on est dans le temps de la création. Donc il y aura une célébration œcuménique le 1er octobre à 18h à l'église des Brécies. Et puis une dernière petite annonce. Il y a des disques vinyles qui avaient été donnés par Aline Kradolfer qui sont toujours dans la petite pièce là-haut. Donc n'hésitez pas à aller les consulter et à les emporter si ça vous intéresse et à faire une offrande à la paroisse. Voilà, je laisse la parole à Norbert. Merci.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Des informations concernant la réunion de l'amitié judéo-chrétienne, mercredi. Exceptionnellement, il s'agira d'une conférence à deux voix sur le thème « Un jour pour Dieu ». Conférence à deux voix, une voix juive avec Eliane Ventre, l'épouse de Jean-Marc, et une voix chrétienne, le père Alain Fournier-Bidoz. Alors, quand on dit voix juive, donc Shabbat, jour pour Dieu, pour les chrétiens, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en réalité, dimanche, ils ont mis dimanche, mais en réalité, certains chrétiens ne se réunissent pas le dimanche, mais le samedi. C'est le cas des adventistes du septième jour. Je ne sais pas si c'est toujours le septième jour, d'ailleurs. Enfin, des adventistes, disons. Sachant que les adventistes font partie, depuis plusieurs années, de la fédération protestante. Donc c'est toujours un peu... Il y a des messages qui sont un peu réducteurs. Quand on dit, j'entends toujours, ça me fait bondir, que le pape c'est le chef de la chrétienté. Non, c'est le chef des catholiques, mais pas de la chrétienté. Et puis les chrétiens, c'est pas forcément le dimanche, même si majoritairement c'est le dimanche. Je veux juste ajouter que Eliane Ventre et le père Alain Fournier-Bidoz se sont connus pour explorer, fouiller, documenter leurs interventions. Donc je suis sûr que ce sera très intéressant. Voilà, merci.
Et sans vouloir faire de politique, je pense que c'est une période où marquer son amitié avec la communauté juive dans ce genre de choses, pas politique, mais ça devient politique parce que la situation, vous le savez, est assez dramatique. Fraternité, oui. C'est en aucun cas un soutien à quelque politique gouvernementale que ce soit, qu'on soit bien clair. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous voici devant toi pour te demander de conduire nos vies par ta parole. Nos vies de parents et celles d'enfants, nos vies de jeunes et d'adultes. Nous te demandons de nous bénir sur cette étape nouvelle d'éducation chrétienne, cette série de rencontres que nous vivrons durant la saison. Que chacune d'entre elles soit comme une graine semée dans notre cœur. Que chacune de ces rencontres soit une occasion de te connaître. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, présent auprès de chacun, mais nous ne savons pas toujours faire silence pour t'écouter et t'entendre au fond de nous-mêmes. Nous avons parfois de la peine à distinguer ta lumière dans le brouillard de nos doutes et de nos questions. Alors nous te prions simplement d'être notre guide. Nous te remercions pour nos monitrices et moniteurs, nos catéchètes et toutes les personnes engagées activement dans notre paroisse. Et nous te prions d'être leur soutien. Nous te prions pour nous-mêmes. Donne-nous chaque jour un brin de confiance et une bonne dose d'émerveillement et de joie de vivre. C'est ainsi que, poussé par ton esprit, nous te disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un père de l'Église, Jean Chrysostome, disait « Rentrez à la maison et préparez deux tables, l'une avec les plats et de la nourriture et l'autre avec les plats de l'Écriture. Faites de votre maison une église. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne le garde pas pour toi. Reprends-le, rumine-le, répète-le. Tu es témoin de l'Évangile. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. » Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parlez au cœur du monde. Bon dimanche à tous.